Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'information au sujet des travaux que nous sommes en train d'entreprendre dans les bâtiments du 96. Ah, c'est mieux comme ça. Ah. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour cette séance d'information concernant les travaux que nous sommes en train d'entreprendre sur les bâtiments du 96 jusqu'au 134 chemin de la montagne. Mon nom est Raphaël Meyer, je suis de Swiss Life, chef de projet. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'être ici parce que c'est vrai, pour un projet tel que nous sommes en train de l'entreprendre sur chemin de la montagne, ce qui est primordial, c'est la communication. Et le fait d'être ici, ça montre que vous êtes ouvert à cette communication et que vous permettez cet échange. Sur cette soirée, peut-être que je peux passer à la slide troisième. Voilà. Donc, au niveau de toute la soirée, si les gens peuvent intervenir, ça va être M. Buffon de l'entreprise Steiner qui va vous expliquer tout ce qui concerne les travaux qui sont en cours. On a Madame Carmas de la société Alter Ego qui va vous expliquer, qui va faire un focus un peu sur l'amiante et sur le désamiantage. C'est toujours un sujet qui peut inquiéter, mais elle va vous expliquer ou nous expliquer tout ce qu'il y a à ça. Après, on a Michel Müller de la régie Lilith qui est là, qui nous parlera de tout ce qui concerne les finances et les loyers. Ensuite, on fait un petit bloc questions-réponses. Et je vous prie, pendant ces explications de déroulé, de ne pas intervenir, de vous noter les questions, pour des questions de timing aussi. Donc on arrive au bout de cette présentation, il y a sûrement peut-être des choses dont on va parler et les réponses, vous les trouverez plus tard, pour qu'on se concentre vraiment sur ce bloc à la fin, où vous poserez les questions et qu'on vous répondra. Et après, tout à la fin, bien sûr, on va boire un petit verre ensemble pour ceux qui ont le temps. Au niveau de l'organigramme, donc, vous avez tout en haut, c'est le maître d'ouvrage, donc c'est le propriétaire de ces immeubles, c'est Swiss Life AG, qui est, elle, représentée par Swiss Life Asset Management AG. Ensuite, on a en dessous l'entreprise Général Steiner, qui est en train d'exécuter ses travaux. Et vous voyez sur la droite, c'est le pool mandataire, donc, qui a été mandaté par le maître d'ouvrage en phase de planification, et qui nous suit toujours aujourd'hui sur l'opération, en parallèle avec le mandataire qu'a missionné l'entreprise Steiner. Après, bien sûr, vous avez tous les sous-traitants, les ouvriers que vous voyez intervenir sur le chantier qui sont rattachés à l'entreprise générale. Après, sur la gauche, vous avez la régie Lilith, qui s'occupe du coup de tout ce qui concerne les baux, loyer, tout ce que vous pouvez rencontrer en termes d'incidence dans votre appartement qui ne concerne pas les travaux. Donc c'est pas toujours, des fois on a tendance un peu à mélanger les deux, mais ce qui est d'entretien, c'est la régie, il faut prévenir la régie. Après, s'il y a des sujets concernant les travaux, là c'est l'entreprise Steiner et Madame Bourreau qu'il faudra prévenir. Au niveau des buts de la rénovation, vous avez pas mal de points qui sont listés. La plante peut-être vous a permis déjà de regarder. Mais les plus importants, je dirais, c'est toujours pour nous, c'est le maintien de la valeur de notre parc. Parce que Swiss Life est un investisseur à long terme. Donc nous investissons pas pour ensuite revendre derrière. C'est vraiment un investissement long terme. On va garder ces immeubles. Ce qui implique après un entretien régulier. Régulier, ça ne veut pas dire tous les ans, donc ce qui vous arrive là ne va pas vous arriver tous les ans, vous le savez. Mais c'est au bout d'un certain temps, dans un cycle de vie, donc là, on est clairement dedans, dans le chemin de la montagne, donc c'est pas tout en 50 ans. Là, effectivement, on a ces interventions qui sont lourdes et on est conscient que ces interventions sont lourdes. Mais néanmoins, c'est obligatoire pour maintenir la valeur de cet immeuble. Après, en même temps, ce qu'on fait, c'est une remise aux normes. parce que les normes, en fait, un immeuble étant aux normes le jour de sa livraison, et le lendemain, déjà, ça commence à se décaler avec les nouvelles normes qui vont continuer à évoluer. Donc, de temps en temps, justement, quand on est en train de faire des interventions, comme on fait ici, quand on très lourd, on en profite pour remettre ces bâtiments aux normes. Donc, je dis normes, ça peut être des lois, ça peut être, par exemple, l'économie d'énergie qu'on fait ici, sur le bâtiment I, par exemple, on va être certifié d'énergie, ce genre de choses. Donc, c'est la remise aux normes. Et après aussi, au niveau de la sécurité, les normes évoluent, et là c'est pareil, donc on intervient pour remettre à niveau. Au niveau de la stratégie du propriétaire, je vous l'ai dit, donc c'est préserver le patrimoine foncier de Swiss Life. Donc les parties techniques, vous le savez tous, dans cet immeuble sont vieillissantes. Donc ce qui implique, c'est le dernier point, c'est réduire les coûts d'entretien, parce qu'un immeuble comme ça, on peut le comparer à une voiture. Quand c'est un certain âge, vous êtes sans arrêt au garage et surtout vous n'êtes jamais sûr de ne pas avoir de panne. Et donc ce qui nous arrive aujourd'hui, et certains de vous peuvent en témoigner, c'est qu'on a des pannes qui arrivent régulièrement dans ces immeubles, ce qui n'est pas agréable pour vous en tant qu'occupant et pour nous en tant que propriétaire non plus, parce que justement ça nécessite après des moyens importants pour corriger des défauts et ne pas vraiment intervenir sur le fond. Donc ce qu'on fait ici, c'est vraiment intervenir sur le fond. Pour ça, c'est très gros travaux. Après, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est s'adapter aux nouvelles normes qui changent et qui évoluent. Ici, une petite image pour vous montrer, c'est pas une image de chemin de la montagne, mais c'est partout la même chose. Donc si vous avez une chute d'évacuation au bout de 40 ans, c'est à peu près le cycle où on intervient, ça ressemble à ça. Peut-être ça vous étend moins après que justement ça crée des problèmes comme des fuites, des réseaux qui n'évacuent plus correctement, etc. Je passe la parole à M. Niffon de l'entreprise Générale qui va donc plus rentrer dans le vif du sujet. Bonsoir à toutes et tous. Je vais commencer par une très brève présentation de l'entreprise Steiner, dont le siège est à Zurich, avec des succursales réparties sur le territoire suisse, à Saint-Gall, à Berne, Bâle, Morges et Genève. Nous sommes une entreprise qui est spécialisée dans la construction, donc la construction neuve en entreprise générale et totale, dans la rénovation en entreprise générale et totale également, mais aussi dans le développement immobilier. Nous bénéficions d'une triple certification pour la qualité, la sécurité et également l'environnement. Steiner a fêté ses 100 ans en 2015 par la création de l'entreprise qui était à l'origine une menuiserie fondée par Karl Steiner. En 1948, nous avons débuté les activités en tant qu'entrepreneur général. En 1973, la marque Unirénova s'est spécialisée dans les travaux de transformation et rénovation. Et en 2010, l'entreprise a été acquise par un groupe indien, HCC, spécialisé dans le domaine de la construction. Quelques références récentes, rénovation d'un immeuble de logement à Nyon, l'As de Pique, l'extension de la piscine de Villard, que nous avons rendue il y a quelques semaines en arrière, Avenue de France à Lausanne, qui est un chantier en cours, rénovation de logements en site occupé, pour lequel on a fait 2 cages d'escalier sur 5 actuellement. Une école primaire à Vuillet-les-Lacs. Le chantier Buffet de la Gare à Lausanne, qui est également en cours de réalisation. Et Rouvray 8, 10, 12 à Lausanne, que nous avons réceptionné également il y a peu de temps. Pour l'équipe Steiner, qui est mise en place sur ce chantier-là, donc je suis en charge du projet. Nous avons M. Beau comme site manager, donc comme responsable du chantier sur place, qui vous présentera d'ailleurs tout à l'heure les aspects de plan d'installation de chantier, de logistique et puis également de planification des travaux. Lui sont rattachés M. Trocero et M. Oscan, qui est actuellement en lune de miel, qui sera excusé pour ce soir. Les deux seront en charge des travaux de rénovation,
donc des cages à rénover que vous occupez actuellement. Nous avons également M. Anthony Gréville, qui est en charge de la réalisation du parking centre, et puis qui rejoindra également l'équipe en surélévation pour gérer les corps d'état architecturaux. Dans un premier temps, la structure étant gérée par M. Beau. Et puis ensuite, votre entrée principale pour des contacts, des questions, des échanges sur les travaux, Madame Bourreau, qui a Bonjour. Le poste d'assistante de projet et de médiatrice vis-à-vis des habitants. Très brièvement, le programme des travaux, donc la rénovation des bâtiments Z et I. Pour le bâtiment Z, principalement les salles d'eau et les communs. Pour le bâtiment I, le même programme, mais avec la réfection des façades. Une surélévation de 2 étages sur chacun de ces bâtiments. La création d'un parking enterré qui est en cours. Et puis la réfection des aménagements extérieurs. Au niveau des cuisines, nous allons remplacer l'ensemble des colonnes sanitaires, que ce soit les colonnes de chauffe ou les colonnes d'alimentation. Nous remplacerons également les bouches de ventilation, que l'on remplacera par des bouches hydro-réglables. Un nouveau revêtement de sol, un rafraîchissement des plafonds et des murs au niveau des peintures, et puis le remplacement de tout l'agencement de cuisine, donc mobilier et appareillage. À titre indicatif, nous avons mis quelques illustrations d'un autre projet pour montrer un peu la typologie de cuisine qu'on peut avoir dans des bâtiments de cette ancienneté. Une photo en cours de travaux et puis une fois que nous avons terminé les travaux. Au niveau des salles d'eau, donc pour ce qui est technique, nous reprenons la même chose, à savoir les conduites sanitaires, toujours alimentation et colonnes de chute, les bouches de ventilation. Nous refaisons le carrelage au sol, les faïences qui seront toute hauteur. Nous posons de nouveaux appareils sanitaires et puis le rafraîchissement des peintures de plafond. Même chose, quelques illustrations avant les travaux, pendant les travaux et une fois les travaux réalisés. Pour les loggias, nous referons les revêtements de sol avec la pose d'un carrelage en lieu et place des bétons de boue qui sont actuellement ou peints dans certains logements. En fonction des logements, nous pouvons procéder également à des travaux de désamiantage pour les logements qui contiennent ce type de matériaux-là. Donc là, même chose, on voit un peu comment dire, le matériel utilisé, donc avec les sas de confinement. On voit également une personne sur tout à droite qui est équipée pour effectuer ces travaux-là. Et puis, je vais laisser, pour vous donner plus de précisions sur ce point spécifique, la parole à Madame Carmas, du bureau Alter Ego, qui est mandatée pour les diagnostics sur l'amiante et puis également, dans le futur, pour le suivi des travaux de désamiantage.
Bonsoir à tous. Peut-être juste avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel sur ce qu'est l'amiante, ou peut-être même juste une information, parce que c'est vrai que c'est un mot qui a tendance à faire peur. Il y a beaucoup de polémiques autour de l'amiante dans les bâtiments, dans les logements. On tenait quand même à vous rappeler donc aujourd'hui que c'est bien entendu, là-dessus il n'y a pas de débat, c'est une substance qui est toxique pour l'homme, toxique par inhalation principalement. Mais c'est avant tout une substance qui est naturelle, donc vraiment qu'on trouve dans des mines et qu'on a utilisé de manière très très intensive dans le bâtiment. C'était vraiment un produit miracle qu'on a utilisé dans différents matériaux de construction et qu'on retrouve aujourd'hui dans vos logements. Là où on aimerait aussi insister, c'est sur le fait que, bien entendu, même si c'est un produit qui est toxique, généralement, quand il est dans les matériaux de construction, en utilisation normale de vos logements, vous ne craignez absolument rien. C'est vraiment le danger commence et est né au moment où vous intervenez sur le matériau. Donc si vous avez par exemple de l'amiante dans le carrelage, dans la colle de carrelage de votre salle de bain, c'est pas ce qui va créer un risque pour vous. Vous pouvez être dans le logement depuis 50 ans, c'est pas pour autant que vous avez été exposé à des fibres d'amiante et qu'il y a un risque. C'est vraiment au moment où on va intervenir et qu'on va faire des travaux et donc libérer ces fibres, on crée le risque. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là, qui est un cadre réglementaire, qui donc impose, dans le cadre d'un projet de construction, de rénovation, de procéder à un diagnostic amiante et PCB avant travaux. Alors, c'est ce qu'on a fait depuis le début du printemps. Donc, vous n'avez pas vu moi personnellement, mais vous avez dû voir certains de mes collègues qui sont venus chez vous. Donc, vous a un peu embêté, parfois beaucoup, pour venir faire des sondages et des prélèvements. Donc, ça, c'est vraiment une opération qui se fait de manière obligatoire pour pouvoir prouver ou confirmer ou infirmer la présence d'amiante dans un matériau. Donc, pour pouvoir faire un diagnostic, on ne peut pas juste venir dans votre appartement puis vous dire « Oh, bon, bah, là, il y en a ou il n'y en a pas. » On a vraiment cette obligation de faire des sondages destructifs et des analyses en laboratoire. Donc, résultat des courses, vous vous êtes retrouvés, certains d'entre vous, avec des petits trous chez vous. On est vraiment désolés du dérangement, mais on n'a vraiment pas d'autres possibilités et d'autres moyens techniques pour faire un diagnostic et répondre donc aux exigences légales. Donc ce diagnostic, on l'a réalisé en deux étapes. La première étape vraiment concernait tous les communs et les appartements vacants. Et puis ensuite, la deuxième étape était les appartements occupés. Le but d'avoir fait ce diagnostic en deux étapes, c'était vraiment d'avoir une première approche dans les appartements vacants et les communs, donc dans les zones les plus accessibles, pour voir si on pouvait déjà sortir, ou du moins est-ce qu'il y avait une tendance au niveau des matériaux d'origine qui se présentait sur la présence ou pas d'amiante. On a de toute façon dû ensuite venir confirmer ces premiers résultats dans l'ensemble de vos appartements. Au niveau de ces résultats, donc, ce qui a été mis en évidence, c'est de la présence principalement de colle de carrelage, de faïence, de plinthe, de revêtement de sol. Mais ça, c'est vraiment de manière ponctuelle. On n'a pas une systématique où on peut dire dans l'ensemble des appartements, on a 100% des cuisines où il y a de l'amiante. Non, ponctuellement, dans certains appartements, on a des matériaux qui reviennent amiantés, d'autres pas. Donc ça, c'est vraiment aussi lié à la genèse des travaux de rénovation qui ont été réalisés dans vos appartements. Ensuite, on a trouvé aussi des crépits de cage d'escalier, des éléments en fibrociment. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'éternite, anciennement éternite. Donc c'est vraiment ce qu'il y a au niveau de vos façades. Et puis sur les balcons, des joints d'étanchéité au sol. Maintenant la suite, maintenant que donc on a cet état des lieux, c'est vraiment la planification des travaux. Donc comme vous avez pu le voir sur les photos précédemment et puis sur celle-ci, l'idée aujourd'hui c'est de pouvoir procéder à des travaux d'assainissement. Donc ces travaux d'assainissement, ils seront réalisés par une entreprise spécialisée. Donc spécialisée, ça veut dire que c'est une entreprise qui est reconnue par les autorités. Donc qui fait partie d'une liste donc, qui est celle de la SUVA, mais également la liste du canton de Genève, donc sur la liste du SABRA. Donc là, la procédure d'appel d'offres est en cours pour sélectionner cette entreprise. Et ensuite, au niveau de la technique d'intervention sur ces matériaux amiantés, il y a certains types de matériaux sur lesquels on peut intervenir en méthodologie allégée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire intervenir des ouvriers qui eux-mêmes sont équipés, mais il n'y aura pas d'installation complète autour d'eux. Ça, c'est vraiment pour tout ce qui est matériaux qu'on appelle fortement agglomérés, donc des matériaux où il y a peu de risques de libération de fibres. Donc typiquement, vous aurez l'occasion de voir pendant le chantier des ouvriers qui interviennent en façade pour déposer des éléments de fibrociment. Là, eux seront équipés parce qu'ils doivent se protéger parce qu'ils sont en contact direct avec le matériau. Mais vu qu'il y a très très peu de risques de libération de fibres, là en l'occurrence, les autorités et les règles de l'art permettent d'intervenir en méthodologie allégée. Pour les autres matériaux, en l'occurrence ceux qui sont à l'intérieur des appartements, donc les colles de carrelage, les colles de faïence, pour pouvoir les assainir, on doit devoir les piquer. Pour les piquer, on risque de libérer des fibres, et c'est pour ça que là, on va sortir vraiment l'artillerie lourde. En l'occurrence, l'artillerie lourde, c'est ce que vous voyez sur les photos, c'est qu'on va venir confiner la zone à traiter. Donc la confiner, c'est vraiment, on va venir l'isoler, la rendre complètement hermétique du reste de l'appartement. On va rendre hermétique encore plus, dans le sens où on va la mettre en dépression pour pouvoir traiter l'air de cette zone, et que l'air qui est dans cette zone ne soit jamais en contact avec le reste de l'appartement. Donc on a toutes sortes d'installations qui nous permettent d'assurer ces conditions. On fait intervenir des ouvriers qui, eux, ben, comme vous le voyez, sont équipés. Et puis, on fait les travaux d'assainissement. Je ne sais pas si vous voyez bien sur les photos, vous verrez quand vous aurez la brochure, ces installations prennent passablement de place. Donc c'est vrai que, par exemple, quand on va venir assainir votre cuisine, on va vraiment empiéter sur toute la partie du couloir. Donc clairement, on fait du désamiantage en site occupé, c'est-à-dire avec des locataires qui restent dans l'appartement pendant les travaux, mais généralement on le déconseille très vivement parce que d'un point de vue pratique, c'est pas très agréable pour vous, c'est pas très agréable pour les ouvriers non plus. Donc c'est vraiment, d'une manière générale, il n'y a pas de risque à rester à côté ou à proximité d'une zone confinée parce que tous les moyens de monitoring sont là. Par contre, c'est vraiment pour des contraintes organisationnelles qu'on pousse les gens à ne pas rester dans leur appartement. Au niveau des contrôles, donc comme l'a dit M. Muffon, donc nous on est mandaté pour assurer, donc on a fait la première partie d'étude d'état des lieux, mais on va aussi suivre l'ensemble du chantier d'assainissement. Donc pour pouvoir garantir que ces travaux se font conformément aux règles en vigueur, donc chaque zone confinée fera l'objet d'une visite feu vert, donc c'est-à-dire qu'avant même que l'entreprise puisse vraiment commencer les travaux d'assainissement, chaque installation sera contrôlée par nos soins pour vérifier l'étanchéité et vérifier que l'ensemble des installations de sécurité fonctionnent conformément. Ensuite, chaque zone confinée au moment où l'assainissement est terminé, avant de démonter la zone, on viendra faire ce qu'on appelle des contrôles libératoires. Donc ces contrôles libératoires, ils sont de deux types. Vous avez donc, dans un premier temps, le contrôle visuel. Donc ça, c'est vraiment pour confirmer qu'il n'y a plus de présence d'amiante visible, donc soit de matériaux contenant de l'amiante, soit même de poussière. Donc on vient vraiment inspecter la zone. Puis ensuite, chaque zone confinée fait l'objet de mesures d'air. Donc on vient poser des mesures d'air pendant 8 heures qui pompent en fait l'air de la zone, qu'on fait ensuite analyser en laboratoire pour, avant de pouvoir démonter la zone, prouver qu'il n'y a absolument plus de fibres et qu'on peut absolument démonter et remettre la zone de l'appartement à la suite des travaux et à l'accessibilité aussi des personnes. Et l'ensemble de ces contrôles sont documentés dans un rapport final d'assainissement qui lui-même ensuite est remis aux autorités. Donc une version à la Souvain et une version aux autorités cantonales. Donc c'est aujourd'hui vraiment un processus, ça peut vous paraître un peu compliqué et obscur, mais aujourd'hui c'est vraiment un processus qu'on maîtrise tant du point de vue technique que réglementaire. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui ont l'habitude de faire du désamiantage. Les techniques et les installations, elles sont connues et puis très bien utilisées. Donc ça sera des travaux qui se feront complètement en sécurité et normalement, comme vous ne serez pas dans les appartements pendant ces travaux, vous aurez un minimum de gêne lié à ces travaux. Voilà, je vous remercie.
Une petite précision qui ne vous a pas été apportée en début de séance, la projection qui est le document projeté ce soir vous sera remis en format papier à la sortie de la salle à la fin de la séance. Pour ce qui concerne les parties communes, il y a des travaux que l'on va faire dont vous allez vous rendre compte et puis d'autres qui seront invisibles mais qui vont tout de même demander, qui vont tout de même faire l'objet de travaux de notre part. Pour les travaux visibles, on va rafraîchir l'ensemble des communs, donc les peintures, des cages d'escalier et puis des halls. Remplacer les portes palières, ça va nous permettre de les remettre également en ordre par rapport aux normes, donc ce seront des portes EI30. Nous allons installer des coupoles de désenfumage qui seront asservies en tête de cage d'escalier, donc toujours dans le but de répondre au cadre normatif actuel. Nous allons prolonger les cages d'ascenseur, donc ça c'est lié aux deux étages de surélévation. Reprendre des aménagements extérieurs, comme je le disais tout à l'heure, on va essayer d'être au plus proche de ce qui est fait actuellement, et puis la réalisation du parking centre. Pour les travaux invisibles, nous allons changer d'énergie. Actuellement, donc, on fonctionne au fioul sur ces bâtiments-là. On passera à l'énergie gaz. On va remplacer les chaudières et installer des pompes à chaleur qui fonctionneront sur l'arbissier et qui vont nous permettre de préchauffer l'intégralité de l'eau de chauffage des deux étages surélevés et également de préchauffer une partie de l'eau chaude sanitaire de l'ensemble des immeubles. Nous remplacerons également les extracteurs de ventilation par des extracteurs neufs. Je vais laisser la parole à M. Beau, qui va vous parler du plan d'installation de chantier et également de la planification des travaux. Bonsoir.
Nous allons vous présenter l'organisation générale du chantier qui sera en place pendant les travaux qui concernent vos montées. Donc tout d'abord, à proximité des montées 96-98, vous trouvez l'installation de chantier que vous côtoyez depuis le mois de septembre. Le long de la passerelle des écureuils se trouve la base vie de chantier, avec au R+1 les bureaux de l'entreprise Steiner, et plus précisément celui de Mme Bourreau, vous pourrez venir solliciter pour toute question relative aux travaux. À côté de cette base vie, matérialisée en jaune, vous avez l'aire de livraison pour tous les matériaux et matériels qui servent aux travaux de la première partie du bâtiment Z, à savoir les montées 96 à 106. Ces matériaux, pour certains destinés à la surélévation, sont acheminés sur le toit par le pied de la grue G1, qui a été installée au mois de septembre. Cette grue G1, au même titre que le monte-charge installé au niveau du numéro 100 et les échafaudages du 96 au 106, seront maintenus en place jusqu'à la fin des travaux de façade de la surélévation et seront donc démontés au mois de juillet 2018. Comme vous avez pu le constater également, nous avons démarré en parallèle les travaux du parking centre. Les travaux en cours sont les travaux de terrassement. Ces travaux vont se terminer au mois de janvier 2018. Janvier 2018 marquera aussi l'installation de la grue G2 et l'installation d'un monte-charge, au même titre que pour la première partie du bâtiment Z, en façade de la montée 122. La grue G2 va servir aux travaux du parking centre et également aux travaux de surélévation des montées 122 à 108. L'aire de livraison qui desservira cette grue se situe en face du bâtiment I, également matérialisé en jaune, et l'accès se fera par la rampe du parking existant du bâtiment I, là où actuellement les camions de terrassement rentrent sur le chantier. Comme vous le savez, tous les appartements du 6e étage doivent être évacués pendant les travaux de surélévation, et ceci pour des raisons de sécurité. Et pour ces mêmes raisons, la zone de survol de charge qui se situe entre la grue G2 et le bâtiment 122, qui est matérialisé en rouge sur le plan, sera interdite d'accès. Ce qui veut dire, au niveau rez-de-chaussée extérieur, l'accès sera interdit aux piétons et aux voitures. Seuls les pompiers pourront accéder en cas d'urgence. Et au niveau inférieur, au parking, les places de parking qui sont à l'aplomb de cette zone rouge seront condamnées provisoirement et les voitures seront relogées sur des places vacantes. Et ensuite, comme pour le bâtiment Z première partie, la grue G2, le monte-charge au droit de la montée 122 ainsi que tous les échafaudages des montées 122 au 108 seront démontés à la fin des travaux de façade. Et ça, c'est prévu pour janvier 2019. Voilà, maintenant, on va passer au planning détaillé des travaux. Donc on démarre par le parking centre, qui a démarré en septembre 2017 et qui s'étalera jusqu'en avril 2019 et qui sera mis en service en mai 2019. La surélévation du bâtiment Z, partie 1, donc montée 96 à 106, qui a déjà démarré en octobre 2017, elle s'étendra jusqu'en août 2019. Donc août 2019, c'est et la structure et l'aménagement intérieur. Donc, dès que l'aménagement intérieur de la surélévation démarre, nous allons aussi démarrer les travaux de rénovation des montées. Donc, la première montée concernée par les travaux de rénovation est la montée 96, et les travaux démarreront en mars 2018. Les travaux dans une montée durent 12 semaines. Ces 12 semaines sont bien des semaines de travaux. Vous serez, pour ceux qui le souhaitent, déménager avant ces 12 semaines, et vous réemménagez dans votre appartement après ces 12 semaines. Donc ensuite, montée après montée, entrée 98, démarrage des travaux en mai 2018, et ensuite l'entrée 106, elle démarra en mars 2019. Donc voilà, on arrive sur la partie qui vous concerne tout particulièrement. La surélévation des montées 122 à 106 va démarrer dès début janvier 2018. Donc Madame Beau a pris contact avec certains d'entre vous au 6e étage pour préparer les premiers déménagements. Les premiers travaux qui auront lieu sur cette partie du bâtiment sont les échafaudages suspendus et puis les travaux de démolition en toiture. et également la surélévation en schéma pour se terminer, aménagement intérieur compris, en janvier 2020. Ensuite, la partie rénovation des appartements existants. Les premiers travaux de rénovation seront pour la montée 122 et démarreront en mai 2019. Ensuite, comme tout à l'heure, avec une cadence de 12 semaines par montée, la montée 120, elle démarra en août 2019, la 118 en octobre 2019, la 116 en janvier 2020, la 114 en mars 2020, la 112 en juin 2020, la 110 en août 2020 et la 108 en octobre 2020. Ouais, ensuite, on va parler de vos voisins du bâtiment I, qui eux seront concernés par les travaux de surélévation dès l'été prochain, en août 2018. Et les travaux s'étaleront jusqu'à fin septembre 2020. Et la rénovation des cages d'escalier depuis l'entrée 124 démarra en décembre 2019. Ensuite, on s'échelonne toutes les 12 semaines pour terminer par l'entrée 134 en décembre 2020. Je vais repasser la parole à Michel, qui va vous présenter les nuisances liées aux travaux.
Alors effectivement, les travaux ont généré certaines nuisances, même avec toute la bonne volonté du monde. En tout premier lieu, des nuisances sonores. Même en utilisant du matériel adapté, il y aura forcément des nuisances sonores. On s'efforcera bien entendu de respecter les horaires de chantier que l'on verra quelques slides plus tard. Toujours dans l'utilisation d'un matériel le plus adapté et même en nettoyant nos places de travail le plus régulièrement possible, les travaux que nous allons réaliser génèrent de la poussière, génèrent beaucoup de poussière. On sera le plus vigilant possible pour qu'ils soient vraiment nettoyés quotidiennement. Les ascenseurs, pendant les travaux de rénovation, et uniquement pendant les travaux de rénovation, donc pendant les 3 mois où on rénove une cage, l'ascenseur sera coupé, puis ensuite remis en service avant que les habitants rentrent de nouveau dans leur logement. Le dérangement, effectivement, on intervient plusieurs fois dans le logement, multiples reprises pendant ces 3 mois de travaux, que ce soit dans le logement et y compris sur le balcon, puisque je parlais tout à l'heure des revêtements de sol que nous allons refaire avec la pose de carrelage. Le rangement des appartements, effectivement, pour nous permettre d'intervenir et de réaliser les travaux de rénovation, il faut que les pièces humides, donc les salles de bain, les WC séparés, les cuisines, mais également le hall d'entrée, soient vidées de toute affaire personnelle. Et puis ensuite, les déménagements, qui sont pris en charge par le propriétaire. Je me permets d'insister sur les déménagements, puisque les déménagements sont obligatoires pour des raisons de sécurité pour tous ceux qui habitent au 6e. Et avec communément avec le propriétaire, on incite vraiment fortement les personnes qui souhaiteraient rester pendant les travaux dans leur logement, pendant les 3 mois de rénovation, sur le fait que c'est vraiment des conditions de vie qui sont très très difficile que de vivre dans un chantier. Déjà d'être dans un logement qui sera dans une autre cage d'escalier, éloigné des travaux, c'est déjà compliqué, parce que l'isolation acoustique de ces bâtiments, bah, dans ces années-là, l'acoustique était une préoccupation qui n'existait pas vraiment. Donc de rester dans la cage à proprement dit, avec ce qu'on a expliqué sur l'amiante, on vous a montré également quelques photos en cours de chantier, c'est vraiment compliqué, même si on met à disposition pendant la dépose de la cuisine des plaques électriques provisoires, même si on met à disposition des WC secs, une douche commune, tout ce que l'on peut mettre en place pendant le chantier. À titre personnel, je vous recommande vraiment de prendre cette option de déménagement, ça vous permettra de vivre dans des conditions qui seront beaucoup plus acceptables pendant ces 3 mois de travaux. Pour avoir personnellement eu mes bureaux pendant plus d'une année dans un bâtiment en rénovation, c'est vraiment très 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 compliqué à vivre. Alors, un peu de détails sur les déménagements. Donc, pour les personnes qui habitent au 6e étage, comme je mentionnais tout à l'heure, pour des raisons de sécurité pendant les travaux de surélévation, le déménagement se fait de façon complète. Donc vraiment, on déménage toutes les affaires personnelles, tout le mobilier de la personne en question pour aller l'accueillir dans un logement des bâtiments Z ou I. pendant une période de 9 à 12 mois. Pour ensuite les déménagements partiels, donc ça concerne la période de rénovation qui dure 3 mois. Donc là, on ne prend que le canapé, les lits, les biens personnels, et puis vous rejoindrez un logement qui sera déjà semi-meublé. Donc avec le solde des meubles vous permettant de vivre pendant 3 mois. Une petite précision, c'est que les personnes qui habitent au 6e étage, du coup, sont concernées par les deux volets, puisque la convention locataire qui a été signée il y a quelques temps en arrière impose que l'on ait terminé la partie gros œuvre de la surélévation pour commencer les travaux de rénovation. Ce qui veut dire que pour un locataire qui habite au 6e étage, dans un premier temps, il déménage une période de 9 à 12 mois pour des raisons de sécurité, et puis ensuite une période de 3 mois pour les travaux de rénovation. Madame Bourreau, pour ces cas particuliers, propose systématiquement aux locataires qui le souhaitent de partir pour une plus longue durée que les 9 à 12 mois, qui recoupe également la période de 3 mois, pour ne partir qu'une fois et ne rentrer qu'une seule fois. Mais ça restera votre choix, au final, si vous souhaitez partir deux fois.
Quand c'est possible.
Quand c'est possible, Madame Bourreau précise. L'entreprise de déménagement que nous avons mandatée vous fournira bien sûr l'entièreté des cartons, des protections, le papier de soie ou autre pour pouvoir faire tous les emballages nécessaires avant le déménagement. Et puis ensuite, l'entreprise de déménagement, une fois tous les cartons faits, se charge de passer toutes vos affaires dans le logement provisoire. Les horaires de chantier. Alors au niveau des travaux généraux, on démarre le chantier à 7h30 jusqu'à 18h. Pour les travaux les plus bruyants, nous commençons à 8h, on s'arrête à midi, nous reprenons à 13h pour finir la journée à 17h30. Le week-end et jours fériés, il n'y aura pas de travaux, peu importe l'avancement du projet, même si nous avons des imprévus, on accuse quelques retards, c'est un avancement qui restera. Et puis on profite de vous informer de la fermeture hivernale du chantier pendant 2 semaines, du jeudi 21 décembre au soir jusqu'au lundi 8 janvier 2018 au matin.
Je vais vous présenter les mesures, les consignes qu'on vous demande de respecter pour votre sécurité. Donc la première, c'est l'interdiction d'accès aux zones de travaux. Précisément aux pièces qui sont en travaux dans votre appartement. Cette interdiction, elle est valable pour les personnes adultes, pour les enfants et aussi pour les animaux domestiques. Pour les personnes qui souhaitent rester dans leur appartement pendant les travaux, on précise ici que l'animal est sous votre responsabilité et on vous demandera de le maintenir dans les pièces qui sont non concernées par les travaux.
Juste une petite précision concernant les animaux. Tout à l'heure, je parlais de conditions de vie dans une cage en travaux qui sont très très difficiles. Les animaux, pour la plupart en tout cas, ont une ouïe beaucoup plus sensible que la nôtre. Ce serait vraiment inhumain, à mon sens, que de les laisser dans le logement. Si jamais vous souhaitez vraiment rester dans le logement et que vous avez un animal de compagnie, vraiment le mieux pour lui, ce serait de le confier à une tierce personne pendant la durée des travaux.
Le deuxième point concerne les protections que nous allons mettre en place dans notre appartement pour la réalisation des travaux. Ces protections sont indispensables et sont de plusieurs types. On a des protections qui sont là pour protéger le sol existant dans notre appartement, pour pouvoir le rendre dans l'état dans lequel nous l'avons trouvé. Des protections seront mises en place pour séparer les zones en travaux des zones de notre appartement qui ne sont non concernées par les travaux. Et d'autres protections seront aussi mises en place pour réaliser les confinements de désémontage. Donc vous vous rendez bien compte que toutes ces protections sont indispensables. Et nous demandons de ne pas les retirer. Le dernier point concerne les objets de valeur ou fragiles que nous vous demandons et conseillons de regrouper en un seul lieu, si possible sous clé, et dans votre appartement ou dans le lieu de votre choix. Toutes ces consignes de sécurité pourront vous être rappelées par Mme Bourreau, qui, environ un mois avant le démarrage des travaux dans votre appartement, passera vers chacun de vous pour préparer au mieux les travaux et qui vous présentera une charte locataire. Cette charte n'est d'autre qu'une liste de points que nous vous demandons de respecter avant et pendant les travaux qui permettent aux travaux de se passer dans les meilleures conditions. On retrouve ici une liste des principaux points qui vous seront présentés par Mme Bourreau. Donc, on rappelle les consignes de sécurité que nous avons vues précédemment. Nous vous demanderons également de vider toutes les zones concernées par les travaux avant votre arrivée. Donc, ça concerne les cuisines, les salles de bain, les WC, mais aussi les halls et les couloirs de vos appartements qui mènent à ces pièces. On vous demandera aussi de garantir l'accès à l'appartement aux ouvriers, bien évidemment que les travaux puissent se réaliser. Nous vous demanderons de fermer à clé toutes les pièces non concernées par les travaux et également les placards pour lesquels vous possédez les clés. Et nous vous demanderons de garder avec vous ces clés. Enfin, pour les locataires qui souhaitent être relogés dans des appartements vacants, nous vous demanderons d'entreprendre aucun travaux dans ces appartements qui seront par la suite reloués à d'autres locataires.
Alors, les mesures d'accompagnement pendant les travaux. Présence sur site à 80% d'une collaboratrice dédiée, donc c'est notre médiatrice locataire, Madame Céline Bourreau, qui est sur site tous les jours de la semaine, hors mercredi, lundi, enfin, jeudi et vendredi. Une visite individuelle avec chaque locataire avant les travaux. Cette séance est organisée pour cette visite est organisée pour prendre note de sujets particuliers, de difficultés particulières, puisqu'aujourd'hui cette séance n'a pas pour but de traiter de chaque point particulier qu'on peut avoir, mais ils pourront être évoqués lors de cette visite de Madame Bourreau. Un tableau d'information, plusieurs tableaux d'information que vous avez peut-être déjà vu sur site. On a mis en place 4 tableaux d'information et puis également un blog qui n'est pas mentionné ici. Les informations sur le blog ou sur les tableaux d'information sont strictement les mêmes, c'est juste 2 médias de communication différents sur lesquels on s'efforce de vous donner le plus d'informations possible sur les étapes à venir du projet. Et puis quelques informations pratiques également. Et puis on voulait tout de même mentionner que nous sommes bien conscients des désagréments que vous allez subir par les travaux de rénovation et de surélévation. Et qu'on s'efforcera pendant toute la durée des travaux de minimiser au maximum les nuisances que je mentionnais tout à l'heure, même si elles vont exister, et que, avec l'intermédiaire également de Céline, on sera pendant toute la durée du chantier à votre écoute. Si vous avez des questions, des sujets, des suggestions à nous faire, on sera là pour les écouter et dans la mesure du possible les mettre en place. Alors, la prochaine slide, elle est simplement, c'est une slide relativement ludique qui vous indique, bon, attendant qu'elle s'affiche, je vais tout de même la commenter, que d'une part, pour tout ce qui a trait à des questions sur votre bail, à la vie d'immeuble, à des sujets de maintenance, on va dire, courants, de continuer à vous adresser à la régie, comme vous le faisiez jusqu'avant les travaux, et pour tout ce qui concerne les travaux, leur organisation, leur timing, ou quoi que ce soit, la coordination de manière générale, donc vous adressez à Madame Bourreau. Et sur la slide, on a ces coordonnées qui apparaissent, même si on ne peut pas le voir maintenant tout de suite. Slide que vous retrouverez dans le document papier qui vous sera remis à la sortie. Thank you. Alors voilà la slide aux questions. Pour vous, bon, je vais pas la recommenter, mais donc comme vous le voyez sur la partie de droite, vous trouverez les coordonnées, que ce soit le numéro de Nathalie de Madame Bourreau ou son adresse mail. Et puis je vous précise les horaires auxquels elle est présente sur site, donc de 8h à midi et de 13h30 à 16h30, les lundis, mardis, jeudi et vendredi. Vous pouvez la contacter par téléphone, par email, vous présenter au bureau de chantier qui est au pied de la goule, vous serez toujours les bienvenus. Et maintenant, je vais laisser la parole à M. Muller pour le prochain chef.
Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Lorraine Muller, donc je travaille pour la régie Limite. Je représente le propriétaire qui est Just Life. Donc je vais vous parler un petit peu de l'approche financière de l'opération et des travaux. Donc il faut savoir que dans un immeuble, il y a différents types de travaux qu'on peut faire. Il y a des travaux d'entretien, donc qui sont couverts par le loyer. C'est le bailleur qui prend en charge ces travaux. Et il y a les travaux à plus-value, donc typiquement le genre de travaux qu'on fait pour les bâtiments à montagne. Et donc ces travaux à plus-value sont considérés comme prestations supplémentaires, puisque c'est des prestations qui n'existaient pas quand on a fait le contrat de bail. C'est pour ça que c'est des augmentations qui sont non abusives. Au niveau... Au niveau des différentes lois qui régissent notamment ces travaux et ces augmentations, au niveau fédéral, on a trois lois différentes. On verra dans le slide suivant qu'il y en aura deux spécifiques pour Genève, puisque c'est toujours un petit peu différent à Genève. Donc la première loi, c'est l'article 269 du Code des obligations, qui dit notamment que les travaux à plus-value, donc les travaux où il y a des prestations supplémentaires, ne sont pas abusives. La deuxième loi, c'est l'article 14 de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme. Cet article complète l'article 269 du Code des obligations et dit notamment qu'on peut répercuter les travaux à plus-value entre 50 à 70%. Le troisième article est en fait un arrêt du tribunal fédéral, l'arrêt Frachebout, pour ceux qui le connaissent, qui permet notamment de calculer, c'est des bases de calcul pour ces augmentations de loyer, où on prendra notamment compte des frais d'intérêt, des frais d'amortissement et des frais d'entretien. Au niveau des lois genevoises, donc je disais aussi que Genève avait d'autres lois, donc il y a la fameuse LDTR que vous devez connaître, qui dit qu'on ne peut pas appliquer des loyers à plus de 3405 francs par pièce par an une fois les travaux terminés. Il y a une deuxième loi qui est la loi sur l'énergie, qui dit qu'on peut augmenter légèrement le prix par pièce de la fameuse LDTR dont je viens de citer l'aspect. Si on fait des travaux d'amélioration énergétique. Voilà. Concernant les loyers en question, donc, vous avez dû tous recevoir il y a quelques années, il y a même pas mal d'années, je pense, une prévision de vos futurs loyers. Donc ces loyers ont tous été soumis, ont été approuvés par le département de l'urbanisme. Il faut savoir que ces nouveaux loyers vous seront notifiés par formule officielle, hein, puisque c'est obligatoire, à la fin de l'étape. Hein. Et à la fin de l'étape, on pourra aussi vous donner le loyer exact, puisqu'il faudra connaître le coût des travaux finaux. Et il faudra aussi connaître les critères relatifs que sont l'indice suisse des prix à la consommation, le taux hypothécaire de référence et les charges d'entretien. À ce moment-là, une fois que les travaux seront terminés. Au niveau des hausses de travaux, de loyers, pardon, il faut savoir qu'il va y avoir des différences qui peuvent être assez grandes pour des appartements de même taille. Par exemple, un 5 pièces peut avoir une plus grande augmentation pour un locataire par rapport à un autre. C'est notamment dû au fait que certains locataires maintenant payent peut-être très peu de loyers et d'autres payent beaucoup plus de loyers pour un même appartement. Donc, d'une manière générale, il y aura une sorte de nivellement des loyers, ce qui sera plus équitable pour les locataires, en fait. L'entrée des hausses, donc je l'ai dit, ça sera à la fin des étapes de travaux par le biais de la formule officielle. Et si vous avez des questions spécifiques concernant les loyers ou les calculs de ceci, vous pouvez sans autre, comme on a déjà dit, vous adresser chez nous aussi à la régie Libit au biais de l'adresse mail de Madame Favre. Concernant les possibilités pour les locataires, donc il y a la possibilité de résiliation facilitée pendant la durée des travaux. On en a déjà parlé un petit peu lors des slides précédents. Il y aura un préavis de 30 jours pour le 15 ou la fin d'un mois. Et au niveau des indemnités, il y a 2 mois de loyer net prévu. Et les locataires auront à disposition un appartement provisoire meublé pendant la durée des travaux, comme on en a déjà parlé. Voilà, tout simplement.
Du coup, donc, pour les présentations, on est arrivé au bout, donc on va passer à cette séquence de questions-réponses. Ce qu'on va faire, il y a un micro qui est là. Quelqu'un pourrait peut-être après passer avec le micro, s'il vous pose une question, vous levez la main. On va donner le micro. Et si vous pourriez donner votre nom et l'allée où vous êtes dans les immeubles, ça vous permet de... Alors, qui démarre?
Allô.
Novera, 118 chemin de la Montagne.
Oui, oui. Prends le micro parce que sinon on a du mal à entendre.
Merci.
Novera, au 118 chemin de la Montagne. Je voudrais savoir si la libération des caves doit être aussi faite pour les locataires qui sont au 6e. Et en ce qui concerne le déménagement, je voudrais savoir qui démonte les meubles, nous-mêmes ou le déménageur.
Monsieur Mouffon, donc sous votre contrôle, concernant les caves, donc a priori, les caves restent en place, il n'y a pas de déménagement de caves, c'est bien ça?
Oui, alors je vous confirme qu'effectivement, il n'y a pas de déménagement de caves de prévu, que ce soit pour les locataires du 6e étage comme pour les autres locataires. Et puis ensuite, pour ce qui est du mobilier, si on n'arrive pas à le transporter d'une fois, si vous en sentez la motivation, bah, démontez-le, sinon on le fera pour vous.
Est-ce qu'on a les mêmes surfaces d'appartement? Numéro 118, Madame Novera. Est-ce qu'on a les mêmes surfaces d'appartement quand on les change? Quand on va avoir un appartement de secours, on peut appeler. Ce serait la même surface?
Alors, on s'efforce, Madame Bourreau pourrait vous répondre encore mieux que moi. C'est vrai que ces plannings de rocade sont relativement compliqués. On s'efforce au maximum, en tout cas, d'avoir la même typologie de logement. On demande aux personnes qui sont actuellement dans un grand logement et qui sont soit seules, soit en couple, d'être un peu tolérants et d'accepter pendant 3 mois de rejoindre un logement un peu plus petit, excusez-moi, mais qui peut correspondre quand même à leurs besoins au quotidien, en tout cas de façon provisoire, mais dans la mesure du possible, oui.
D'accord. Encore une autre chose, si pendant plusieurs mois, le locataire est absent de son appartement, voilà, parce qu'il peut avoir une maison secondaire ou autre, est-ce qu'on ne peut pas laisser justement des affaires importantes dans l'appartement au 6e étage? Des grandes armoires, des meubles qui sont difficiles à démonter?
Alors, au 6e étage, non. Parce que il y a deux... en fait, les raisons de sécurité que j'évoquais tout à l'heure ont deux conséquences. La première, c'est qu'effectivement, les habitants ne peuvent pas y rester, au cas où une charge devrait tomber. Et pour protéger également les habitants du dessous, il y a tout un étaiement qui est mis en place entre la dalle sur 6e et la dalle sur 5e. C'est vraiment une forêt d'éther, il y en a quasiment un tous les mètres carrés, qui fait qu'il n'y a vraiment rien qui peut rester dans l'appartement.
D'accord. Et puis le réaménagement est pris aussi en charge?
Tout
Tout à fait. Alors j'aurais dû le préciser, déménagement et reménagement.
Et reménagement.
C'est juste.
D'accord. On a entendu parler qu'il y aurait possibilité d'ouvrir une cloison de la cuisine pour faire une salon cuisine. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce qu'on peut le refuser?
Dans certaines typologies de logements, effectivement, c'est prévu. Sauf erreur, au bâtiment Z, vous n'êtes pas concerné. Cette typologie-là existe uniquement dans le bâtiment I. Et effectivement, les locataires du bâtiment I ont la possibilité de refuser cette ouverture. C'est un point qui est mentionné dans la convention locataire, c'est juste. Et il sera respecté.
Merci, bonjour. Madame Molnarfi au 110. J'ai en fait deux questions concernant les appartements qui sont nouveaux. Si des locataires étaient intéressés, est-ce que les plans sont disponibles et le cas échéant, à qui est-ce qu'ils doivent s'adresser pour déposer une demande? Et j'enchaîne tout de suite sur la deuxième question qui concerne les appartements actuels. Si à terme des locataires étaient intéressés par un appartement plus petit ou plus grand au vu de leur situation familiale ou autre, est-ce qu'ils peuvent aussi s'adresser? À qui doivent-ils s'adresser? Et voilà, à partir de quand peuvent-ils en faire la demande? Si demande.
Concernant les appartements en surélévation, donc ça c'est un point qui est réglé dans la convention entre le groupe Montagne et Swiss Life. Donc effectivement, on a cette clause où on va envoyer aux associés du groupe Montagne une lettre informant donc, de cette surélévation et avec les plans. Et donc ils ont un droit, ils ont une priorité sur la location de ces appartements. Donc ça, c'est réglé dans la convention entre Groupe Montagne et Swiss Life. Après, concernant vos demandes, donc si vous souhaitez changer d'appartement, donc ça, c'est auquel il faudrait à Livit, faire la demande à Livit, écrite. Et donc après, ça nous permettra d'étudier le cas. Oui.
Merci.
On a demandé aussi où sont disponibles les plans de ces appartements.
Ces plans de ces appartements ne sont pas disponibles. Ces plans des appartements vont être envoyés au moment, on n'en est pas encore, mais en fait, c'est, comme c'est écrit dans la convention du groupe Montagne, donc on va envoyer à tous ceux qui ont signé cette convention un jeu de plans. Et c'est à ce moment-là, après, qu'on vous pouvez prendre la décision si vous souhaitez donc déménager.
Bonsoir, Vania Griscom, 118 Chemin de la Montagne. Donc, j'ai une question, je n'ai pas très bien compris concernant les choses que nous pourrons déménager avec nous. Donc, les affaires des cuisines, des salles de bain et hall d'entrée, vous déménagez aussi. Ce n'est pas seulement notre lit, notre canapé.
Alors, dans le cadre, oui, effectivement, tout à l'heure, j'évoquais deux choses. J'évoquais également, pour les personnes qui souhaiteraient rester dans le logement pendant les travaux, le fait qu'ils doivent rendre libres les zones en travaux et le hall. Par contre, dans le cadre du déménagement, en termes de mobilier, donc comme je disais, canapé et lit, et par contre, tout ce qui concerne les affaires personnelles. Donc, si vous pensez à la cuisine, toute la vaisselle, etc., les affaires personnelles de la salle de bain, bien sûr, ça part dans le logement provisoire.
D'accord.
Avec une mise en carton préalable.
Et donc, une fois que nous avons déménagé, nous ne pourrons plus accéder à notre appartement pendant les travaux. Par exemple, comme on va pas tout déménager, par exemple, si je laisse mes livres, je sais pas, tout à coup j'ai besoin, on peut pas accéder.
Alors, idéalement, prenez toutes les affaires personnelles dont vous avez besoin pendant 3 mois pour ne pas retourner sur une zone en chantier. Cependant, si vous avez oublié quelque chose une fois ou même à plusieurs reprises, en passant par un bureau, bien sûr que vous pourrez accéder dans une chambre que vous auriez fermée à clé en laissant toutes sortes d'affaires dont vous pensiez pas avoir besoin pour récupérer quelques éléments, bien sûr.
Et juste une dernière question. Par exemple, si nous avons des appareils ménagers dans la cuisine qui ne sont pas les habituels que vous avez mis dans vos plans, par exemple, dans mon cas, j'ai un lave-linge, est-ce qu'on pourrait garder je veux dire, on peut conçoit qu'on garde notre lave-linge tel quel.
Et actuellement, il est installé dans la cuisine ?
Oui.
C'est sur le principe, je suis obligé de vous dire non, parce que les cuisines, vous imaginez bien, il y a quelques centaines qu'on a installées, donc on pourra vraiment pas faire du sur mesure à chaque fois. Par contre, si des problèmes après spécifiques se posent, c'est toujours c'est la même démarche. Donc, vous regardez avec Madame Bourreau et on va voir si on trouve, par exemple, je sais pas, s'il y a une place dans la salle de bain ou s'il y a une attente qui est prise dans la cuisine. Ça peut être le cas. Dans ces cas-là, bien sûr, on mettra dans la cuisine. Mais ça, c'est après, c'est des cas par cas qu'il faudra vraiment regarder en direct avec Madame Bourreau.
Merci.
Oui, bonjour, Daniel Jiménez au 112. En fait, j'ai plusieurs questions. C'est par rapport à la buanderie dont on a accès gratuite et tout ça. Elle reste ? Est-ce qu'on a une idée de ce qui va se passer à la fin des travaux ? Ça va
non.
bouger ?
Ah non, la buanderie.
Il n'y a rien qui bouge. D'accord. Okay. Très bien. Ça sera amélioré. Ça sera amélioré ?
Alors aujourd'hui, en tout cas, ça ne fait pas partie de notre programme de travail.
Ok, d'accord. Non, bon, ça reste. Et puis voilà. Oui, parce qu'on a reçu aussi des plans de cuisine qui, en fait, n'étaient pas ceux-là concernant nos appartements, etc. Ils étaient tout petits, on ne voyait pas grand-chose, ce n'était pas les bons plans. Est-ce que, je ne sais pas, vous avez des photos de ce que ça sera ou est-ce qu'on va recevoir des plans assez grands qu'on puisse voir et puis qui vont correspondre à nos cuisines ? Enfin, est-ce que c'est prévu, ça ?
Non, en fait, effectivement, il y a eu sur certains...
Oui, c'était tout certains, mélangé, quoi.
Ça n'a pas collé, je suis d'accord avec vous. Donc là encore, ça serait le mieux si vous constatez que chez vous, ça ne correspond pas du tout à votre cuisine.
Oui, c'est ce que j'ai dit, mais je n'ai pas reçu de réponse.
Oui, donc le mieux, ça serait de regarder directement avec Madame Bourreau, comme ça on peut vous sortir.
Oui, j'aimerais bien, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, donc là, on est au gaz, enfin, on peut accéder au gaz dans nos cuisines actuellement. C'est vrai que je souhaiterais continuer de cuisiner au gaz. Je cuisine bien au gaz et pas aux autres, pas bien avec les autres. Donc, enfin voilà, c'est quand même une prestation qu'on avait en arrivant. Là, on la perd. Pour moi, c'est une moins-value.
Le gaz, en fait, c'est précisé avec toi. On a pris la décision de désinstaller le gaz. C'est aussi une raison de sécurité parce que le problème du gaz, si vous avez regardé ces immeubles, vous avez 311 logements. Ça veut dire qu'il y a 311 au moins points de faiblesse. Alors que heureusement aujourd'hui tout le monde n'a pas le gaz. Mais si tout le monde a le gaz, vous avez tous ces points de faiblesse qui sont en gros au niveau de la machine. Parce qu'on nous a dit le gaz, vous dites qu'il y a un problème de sécurité, mais en gros vous changez d'un chauffage à fioul au gaz et vous dites qu'il y a un problème de sécurité. Mais en fait, quand on passe par exemple au chauffage ici gaz, ça n'a rien à voir avec ces 300 installations particulières dans tous les appartements. Donc, vous avez des tuyaux de fer, vous avez des flexibles qui sont raccordés, vous avez tous ces raccords, les flexibles en durée de vie. Mais bon, souvent, c'est jamais changé. Donc, ça reste pendant des années et des années. Donc, ce genre de choses, c'est des points de faiblesse. Et c'est pour ça qu'on souhaite ne plus avoir de gaz dans les immeubles, dans les étages.
On a les contrôles SIG quand même. Hein. C'est bon, bref. Si vous le dites. Si vous le dites.
Vous nous imposez de l'électricité, finalement.
Ouais. Mais on doit changer les casseroles aussi avec le gaz.
Non, il n'y a pas de différence, parce que ce n'est pas différent, c'est un autre système. Ouais. Mais ce n'est pas induction, donc vous pouvez utiliser vos casseroles.
Voilà. Et puis, voilà ma dernière question, après je laisse le micro, c'est par rapport au parking moto aussi, pendant la durée de travaux, soit à l'extérieur ou comme ça. C'est vrai que vous allez donner des places pour les voitures, mais il y a aussi des deux roues. Et est-ce qu'on peut avoir une place spéciale pour les deux roues, justement ? Pendant la durée des travaux, on ne doit pas être sous les grues ou je ne sais où, enfin voilà. Vous me direz. D'accord. Mais c'est pour les autres aussi qui puissent entendre une réponse, pas que moi. Ben, j'avais demandé, puis j'ai pas eu vraiment une réponse non plus. Ben.
Ouais.
Oui, mais il y a un parking moto à l'extérieur pour ceux qui n'ont pas une place fixe. Et puis il faut bien qu'on puisse les mettre quelque part, les motos. Il n'y a pas un endroit précis.
Il n'y en a pas pour le moment. Après, sinon, je vais vous aviser.
Oui. Mais disons que c'est pas que pour moi. Il y a d'autres motards. Voilà. Merci.
Juste, vous pensez aux places de roues extérieures?
Oui. Elles ne sont pas condamnées. Non, elles ont été
non.
Une semaine.
Mais vers le également, il y a quelques places, mais elles ne sont pas condamnées. Non.
Oui, mais à un moment donné, on ne peut pas mettre, on ne pourra pas être sous les derniers travaux. Enfin, il y a beaucoup de travaux.
Alors, vous serez proche des travaux, mais hors de l'enceinte des travaux, il y a eu une condamnation qui était très très provisoire, parce qu'on a, fait quelques bricoles, mais pendant la durée du chantier, ces places, elles resteront ouvertes. Après, si par contre vous avez une difficulté bien particulière, malgré le fait qu'elle soit accessible, on pourra quand même écouter la demande. Mais ces parkings-là ne seront pas condamnés.
Je suis Madame de Dardelle, 110, chemin de la montagne. Et j'aimerais que vous nous parliez peut-être un peu du renforcement des murs porteurs et de la sécurité, s'il vous plaît.
Alors, juste pour bien comprendre la question, vous voulez que je vous parle plutôt de la manière dont on va faire les travaux ou pourquoi on est arrivé à
oui,
faire
ce renforcement-là? Les deux un peu.
Les deux.
Oui, d'accord. S'il vous plaît.
Alors, la première chose, en phase amont, un bureau d'ingénieur civil avait été mandaté pour justement pour établir la résistance de la structure actuelle et sa possibilité de recevoir les étages supplémentaires. Ils n'avaient pas pu rentrer dans tous les logements, ils étaient passés seulement dans des logements vacants pour effectuer certains sondages et arriver à des conclusions sur la structure existante. Il se trouve que nous, par la suite, en phase exécution, phase pour laquelle nous sommes en charge des travaux, nous sommes allés faire des sondages plus exhaustifs. Ce qui nous a permis de mettre en lumière le fait que les hypothèses qui avaient été prises en amont étaient bien trop optimistes sur certains points, puisqu'on parle de renforcement ponctuel et pas de la structure complète, mais sur certains points étaient trop optimistes. Il se trouve que quand on a fait nos calculs sur la base des sondages effectifs et pas sur des interprétations de sondages fait un peu plus loin, et ben ponctuellement, effectivement, la structure existante sans renfort ne peut pas reprendre des étages de surélévation. D'où cette mise en place de renforcement. Ensuite, pour la mise en œuvre, on s'efforce, dans la mesure du possible, au maximum, de travailler avec des matériaux secs. Donc on va principalement travailler avec des renforts métallique, que ce soit des poteaux ou alors du renforcement de poteaux avec une enceinte métallique qui va venir pincer le poteau existant. Une précision, ces poteaux vont devoir, pour reprendre la charge correctement, vont devoir être fixés de dalle à dalle et non sur le revêtement de sol. Donc, ce qui va nous demander de casser un morceau de chape, un morceau de revêtement de sol pour que la platine du poteau aille bien chercher la dalle. Et idem au plafond, si jamais il y a un revêtement ou quoi que ce soit qui nous empêche d'aller chercher la dalle, on devra en démolir une petite partie pour pouvoir aller se fixer en dalle. Une dernière précision, étant donné que ces renforcements nous permettent de reprendre les charges liées à la surélévation, ils doivent être entrepris en amont des nouvelles charges qu'on va apporter. Donc pour le moment, nous, ce que l'on a fait sur le chantier, vous avez pu le voir, c'est uniquement les noyaux de cages d'escalier et de cages d'ascenseur. Donc là, il n'y a pas de problème structurel, excusez-moi, pas d'inquiétude à avoir, puisque la descente de charge se fait correctement avec les murs du dessous, puisqu'ils sont plombés. Par contre, quand on commencera à travailler sur les horizontaux, en amont, les horizontaux, donc les dalles, en amont, on devra avoir réalisé, ces renforcements. Je ne sais pas si c'est assez exhaustif, si vous êtes bien.
Non, ça va très bien, merci.
Ça va. Alors, manière exhaustive.
Alors, il y a des renforts au 96, au numéro 100, au 114 et au 122, principalement sur tous les étages. Et on a des renforts ponctuels aussi au 6e étage, au numéro 100 et au numéro 114. Alors, numéro 100, ça concerne, si je ne me trompe pas, l'appartement 6 pièces qui est côté COP, et ça concerne le poteau qui est au milieu du salon. Non, on vient mettre, comme disait M. Buffon, une sorte d'encoffrement métallique en tête du poteau. pincer le mur béton existant.
Qui du coup, lui-même, cet encoffrement métallique sera lui-même encoffré par des matériaux plats pour que la structure reste résistante au feu à 60 minutes. Donc il y aura cet encoffrement et puis ensuite un habillage plâtre autour. Physiquement, in fine, il sera plus important que sa taille actuelle. C'est juste.
J'ai une question à poser encore. Est-ce que vous allez par la même occasion mettre aux normes toutes les installations électriques ou c'est déjà...
Électricité.
Mise aux normes électriques, donc ce qu'on va faire, c'est au niveau des travaux qu'on fait là, donc cuisine, salle de bain, on procédera à la mise aux normes. Après, vous avez le tableau électrique à l'entrée de votre appartement qu'on mettra aux normes. Donc ça va se limiter à ça. Parce qu'après, ça nécessiterait, si on allait plus loin, ça nécessiterait un accès après aux pièces sèches qu'on ne peut pas gérer dans un chantier comme ça. Donc la mise aux normes va être faite pour cuisine, salle de bain.
Vous savez que quand on se sèche les cheveux, on ne peut pas allumer le fer à repasser. Ça ne marche pas. Donc je trouve que pour une plus-value, ce n'est pas terrible, ça.
Alors, pour.
Mais vraiment, je parle vraiment sérieusement.
Alors, pour le coup, comme le disait M. Meyer, dans les salles d'eau et puis dans la cuisine, l'installation électrique va être faite. Donc, vous pourrez à la fois avoir. C'est la machine à laver, c'est juste.
Non, c'est un sèche-cheveux et un fer à passer en même temps.
Alors là, ce sera pas le.
Mais pas la même pièce, hein, en plus.
Ah, pas la même pièce.
Non, non. Dans deux pièces différentes, le corridor, j'ai le fer à passer. Si quelqu'un sèche les cheveux, il a tout qui saute.
D'accord.
Et c'est tous les jours, ça. Hein. Donc, je pense que s'il y a tout qui est ouvert, on va peut-être envisager quelque chose au niveau de l'électricité, surtout si on a une cuisinière électrique.
En tout cas, pour tout ce qui est des pièces qu'on a mentionnées, vous n'aurez pas ce genre de problème-là. Après, pour les pièces sèches, ça, c'est
dans les pièces sèches, c'est le corridor, c'est les chambres à coucher. Si on met un ventilateur, dans une chambre à coucher, on ne peut pas sécher les cheveux.
Dans les cuisines, à l'heure actuelle, il y en a une, voire deux, si on en a fait mettre une autre. Est-ce que vous comptez en mettre beaucoup plus parce qu'on a beaucoup d'électroménagers?
Surtout pas au fond de la cuisine quand on... le vie est d'un côté.
La machine à café, on a le micro-ondes, on a le cocktail, on a plein de trucs. Alors chaque fois on a une prise, on enlève, on rechange, on change.
Dans notre mandat, dans le programme des travaux qui nous sont confiés, non, il est prévu de remettre la même chose. En termes d'électricité. Simplement, les câbles seront retirés à neuf, l'appareillage sera également neuf, mais au niveau quantitatif, ça ne bougera pas.
Ça veut dire que les SI, chaque fois qu'ils viendront à la maison, ils vont nous faire un grand laïus parce que c'est dangereux. Le fait d'avoir des sucres avec des prises...
Alors, si vous branchez avec des sucres, oui, c'est dangereux.
Oui, mais quand on a la cafetière et le micro-ondes qui travaillent en même temps, il y a une seule prise. On est obligé de mettre un truc pour qu'on puisse brancher deux prises. D'accord.
C'est une prise simple que vous avez? En entre-même, c'est une prise.
C'est la prise normale sous l'évier, enfin
oui.
Sur l'évier.
Ouais, juste au-dessus du plan de travail.
Ouais, et puis moi j'ai mis un sucre avec 8 prises pour pouvoir brancher mes appareils.
Alors la seule chose qui sera différente, c'est que la prise en entre-même, donc celle qui est au-dessus du plan de travail, ce sera une prise triple si vous avez actuellement une prise simple, mais il n'y aura pas de prise en plus.
Il n'y en aura pas en plus, d'accord.
Elle sera simplement triple. Vous pourrez brancher trois appareils dessus au lieu d'un seul.
Je peux enchaîner juste sur ma deuxième question. Après, je passerai le micro volontiers. C'est une question par rapport au loyer, le cas de la LDTR avec la répercussion du coût des travaux sur les loyers. Vous parlez de prestations supplémentaires, mais au final, quelles seront les prestations supplémentaires pour les locataires actuels par rapport aux travaux qui sont engagés?
Les plus-values qu'on fait, c'est déjà par exemple là au niveau de ce qu'on fait dans l'électricité, les salles de bain.
Non, il y a le même nombre de prises, visiblement. Enfin, il n'y a pas de modification fondamentale, il me semble, dans le projet en tout cas.
C'est l'entretien, ça. 50 ans, c'est l'entretien. C'est pas
la prestation. Après, tout ça, c'est très, très encadré. Donc, on n'a pas inventé l'eau chaude. Donc, nous, on applique vraiment la réglementation, ce qui nous est donné. On applique après le pourcentage sur ces travaux-là. Donc, on n'a pas inventé un système.
Non, mais je ne pense pas que vous avez inventé, mais c'est de l'information que vous faites ce soir. Donc, c'est un renseignement supplémentaire qu'on souhaiterait bien avoir.
Après, là, oui, c'est ce qu'on vous dit, en fait. La cuisine, elle est entièrement neuve. La salle de bain est entièrement neuve. Tous les appareillages sont changés. C'est quand même plus-value. Après, si vous me dites non, pas sûr. Mais pour moi, c'est clairement une plus-value et c'est pas que pour moi, en fait. C'est comme des règles qu'on applique, qui sont strictes et qui sont claires. Et on les applique. Je vous propose peut-être encore trois questions. Donc ceux qui ont levé la main, on va les traiter. Et après, vous pouvez continuer parce qu'on va boire un verre. Vous pouvez continuer à poser vos questions, on est encore là. Et après, de toute façon, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de questions qui sont assez précises. Ça, c'est comme je vous ai dit, passé par Madame Bourreau. Elle est là pour ça. On va après voir ça avec vous. Parce qu'on ne pourrait pas traiter, on ne pourra pas traiter toutes les questions de chacun qui sont trop précises. Et aussi, il y a des choses générales. Là, et c'est le moment de poser. Monsieur.
Monsieur Valeton, 122. Je m'excuse d'être direct, mais. Je crois que beaucoup d'entre nous ne sont pas du tout satisfaits avec les explications que vous avez données en ce qui concerne le renforcement du bâtiment. Parce que deux choses, l'une, une, vous nous avez complètement trompés dès le début des projets de surélévation en nous disant qu'il n'y avait aucun problème de surélever de deux étages, que les bâtiments étaient tout à fait capables de les supporter. Alors, ou bien c'était un mensonge, ou bien les experts que vous aviez mandatés, les ingénieurs qui sont venus faire le travail, étaient totalement incompétents. Donc là, on n'est pas du tout satisfait de ces réponses, en tout cas quant à moi, de dire, mais écoutez, c'est après coup qu'on a vu de plus près que le bâtiment n'est pas capable de soutenir ça. Et je suis persuadé que si vous l'aviez été clair dès le début, on n'est pas sûr que vous ayez obtenu une autorisation de surélévation.
Pour être très clair sur cette question-là, je vous ai montré en entrée le schéma avec donc Swiss Life, qui est maître d'ouvrage, qui a travaillé avec un pool mandataire, et qu'après il y a l'entreprise Steiner qui arrive, qui a des mandataires. Donc les travaux, les études de planification qui ont été menées par des mandataires et par des professionnels. Je sais qu'on a fait une séance sur site, pas ça, parce que le groupe Montagne nous a averti de ça, de ce mécontentement. Donc on a fait une séance sur site, il y avait des ingénieurs civils qui étaient présents de la part du groupe Montagne, et on a expliqué ce qui s'est passé. Et les choses, c'est très clair, on ne cache rien du tout. Donc dans ces mandataires qu'on avait, donc c'est l'ingénieur civil, l'ingénieur qui a mené ces études, il n'y avait pas besoin de ces fonds, des renforcements dans ces zones-là. Après, Steiner est arrivé, comme a dit M. Muffon, donc il y a une nouvelle étape de l'exécution qui s'ouvre. Donc il y a d'autres mandataires qui interviennent, qui font des vérifications, qui vont plus loin dans les sondages, qui n'ont pas été faits à l'époque. Et donc on a pu voir qu'effectivement il y a besoin de ces renforts. Donc nous, je vous avais expliqué, nos mandataires sont toujours là, donc on ne les a pas lâchés, ils sont toujours là, et ils nous accompagnent. Donc nous, on a posé les mêmes questions que vous posez là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout d'un coup il y a besoin de ces renforts? Est-ce qu'il y a aussi un coût derrière, bien sûr? Et donc on demande d'où ça vient. Et donc nos explications, c'est ça, en toute franchise. Et donc on est bien obligé de l'accepter. On a cherché des solutions. On a dit qu'il faut trouver des solutions pour avoir justement d'intervenir un minimum dans les appartements. Donc on a trouvé cette solution avec des matériaux qui permettent de les mettre en place de manière sèche. Donc on a le métal, voilà, on a tout mis en œuvre, tout ce qu'il fallait, et on ne peut pas faire plus.
Oui, mais enfin, le mandataire n'a pas bien fait son travail, puisqu'il n'a pas été voir les points délicats qui supportaient le plus de poids aux extrémités, qu'il est allé voir ailleurs, où il n'y a pas d'effort, où il n'y a pas de fatigue, donc il n'a pas bien fait son travail.
Il a bien fait son travail parce qu'on ne peut pas aller voir tous les points précis en phase planification, c'est impossible. Est-ce qu'on a trouvé sur ces certains points, c'est vraiment très très localisé, on l'a dit tout à l'heure, c'est certains points très très précis, et c'est là où on a fait des sondages, on a vu qu'il y a même des matériaux qui changent d'un étage à l'autre. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas, à part d'aller dans tous les appartements, aller faire des sondages partout, sur tous les murs pendant des années, ce n'est pas possible. Et c'est vraiment ces points-là qu'on a traités. Et je vous redis, c'est en toute franchise et c'est en toute transparence. Donc il n'y a pas eu qu'on ait une connaissance des choses, on a essayé de le cacher, mais vraiment pas.
Je viens après, monsieur.
Comment va se passer la mise en place des renforcements au 122? C'est un travail de une journée, de plusieurs jours, de...
Alors, pour être honnête avec vous, c'est un travail en deux phases. Une première phase qui consiste à la mise en place des renforts et leur mise en charge. Ça dure une semaine. Une semaine pendant laquelle votre cuisine n'est pas accessible, puisque les renforts sont situés dans un placard de votre cuisine. Et ensuite, il y a une phase deuxième semaine, où on vient refaire votre placard. Cette phase-là, votre cuisine est accessible et les ouvriers ont un bon fonctionnement pour faire les habillages en place, faire la peinture et faire ensuite les aménagements de votre placard. Donc c'est une semaine où la cuisine est inaccessible et une semaine où elle devient accessible, vous êtes encore dérangé par les travaux.
Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette semaine?
Et ben, on vous propose
payer
les équipements, des plaques, des plaques électriques, des micro-ondes pour faire votre cuisine provisoirement.
Et vous savez quand ça va se passer pour le 122?
Précisément non, mais vraisemblablement au printemps 2018.
Oui, j'avais oublié...
Juste par rapport à ça, vous aurez... Bien évidemment, des informations plus précises un peu plus tard, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, on était tous surpris de ça. Donc aujourd'hui, les choses se mettent en place, mais on peut pas encore, on n'a pas tous les détails. Donc ça, on va directement avec tous les occupants concernés, ce qui aura effectivement comme impact et comment parler pour les agréments.
Mais quand une cuisine est complètement agencée, par nous-mêmes, c'est un architecte intérieur qui l'avait faite quand on a loué l'appartement, elle va être détruite aussi pour remettre une cuisine basique.
Oui, c'est ça. On fait les mêmes travaux dans tous les appartements. Après, vous pouvez demander de garder la cuisine. On va du coup le regarder parce que c'est dans la convention qu'on a signée entre Swiss Life et le groupe Montagne. C'est une ouverture qu'on a donnée. En revanche, tout ce qui empêcherait après de faire les travaux de rénovation que vous ne voyez pas directement, qui sont tout ce qui est évacuation, tout ça, il faut qu'on puisse accéder. Et il y a quand même de fortes chances à ce qu'on soit embêté par de l'équipement qui est en place, en plus qu'on pourrait l'abîmer. C'est le problème. Et après, je vous prie quand même de bien réfléchir, parce que même si vous avez fait quelque chose qui est relativement récent, avec ce qu'on a installé, qui est complètement neuf, qui est de matériel haut de gamme qu'on vous installe, ça vaut quand même.
Non, on vient de le faire il y a 6 mois, 7 mois. C'est une miel et c'est des...
Ça peut être.
C'est un cas particulier qu'on va regarder, mais de faire des travaux dans votre cuisine à ce moment-là, c'est bon.
Alors, oui, j'avais encore une question. Enfin, j'avais une question. C'est pas.
Comme l'a dit M. Meyer, on a eu d'autres demandes lors de la première séance info locataire. La réponse n'est pas non. Il faut juste que la cuisine soit récente. A priori, c'est tout à fait le cas. Et la deuxième chose, c'est que techniquement, on puisse aller rénover tout de même les colonnes. Il n'est pas impossible. Il faut qu'on se déplace dans votre logement pour aller donner cet avis technique, qu'on puisse accéder à la guette technique par un autre endroit que la cuisine. Qu'on puisse y accéder depuis une autre pièce.
Donc c'est pas non, c'est, il faut vraiment qu'on puisse regarder sur l'aspect technique si on peut aller remplacer ces colonnes depuis un autre pan. Ce qui est envisageable, il faut voir la typologie de votre logement précisément, qu'on se déplace.
Oui, alors, excusez-moi, j'avais encore une question, c'était par rapport aux aménagements extérieurs, parce que voilà, il y a un grand magma là en ce moment. On avait un cadre assez idyllique avant ça. Et est-ce qu'on a une idée, est-ce que vous avez déjà une idée des aménagements extérieurs, parce que qu'il y aura, parce qu'aujourd'hui vous avez une petite photo qui nous présente ça, rien du tout. Et s'il n'y a rien, est-ce qu'on peut avoir une concertation avec vous pour proposer des idées, parce qu'on vit là depuis 50 ans, voire plus, et on oui. connaît bien le terrain. On a joué là.
Sur le principe, bien sûr, l'aménagement, c'était prévu dans des plans qui existent aujourd'hui, et qu'on a dit, ça, c'est quelque chose qui se colle au plus près de ce qu'il y a aujourd'hui. Mais cette demande que vous faites, elle nous a été faite aussi par le groupe Montagne. Donc on a eu tout un document qui nous a été envoyé, qui est très bien présenté, qui donne de bonnes idées. Donc on a regardé tout ce document, on l'a donné à nos mandataires, et donc ils vont regarder comment on peut intégrer ces demandes dans ce qui est en train de se faire, ou qui devra se faire, ce qui est prévu de faire. Donc ça, on est en train de le regarder, et j'avais dit au groupe Montagne qu'on va revenir vers eux, ça va être début 2018, pour essayer de regarder tout ça, et bah, il y a besoin de changer, bah, on changera.
Mais par exemple, ce sera pour quand l'aire de jeu,
c'est à moi. Bonjour. Marco Girani, 120 chemin de la montagne.
Excusez-moi, il y a une question là, que vous n'avez pas entendue. C'est juste pour après c'est votre tour, oui, bien sûr. Mais c'est sûr, donc sur l'aire de jeu, c'est vrai, on avait prévu de faire un provisoire qui n'a pas pu se faire finalement par des raisons de place, c'est parce qu'on est intervenu pour. Voilà, pour des raisons. Les autorités, voilà. Donc on n'a pas pu faire cette aire provisoire. Donc malheureusement, l'aire de jeu définitive, ce ne sera que celle-là qui sera à disposition. Donc ça sera tout à la fin des travaux. Donc là, on est dans un horizon quand même assez loin, 2021.
C'est à moi cette fois ?
Oui,
j'ai juste... excusez-moi. C'est pas grave. J'ai juste quatre petites questions dont les réponses sont très courtes. C'est oui, non. Ça intéresse probablement plusieurs personnes. Dans les appartements de 6 pièces, il y a des chambres avec un point d'eau. À côté de la cuisine, est-ce qu'il va falloir vider complètement ces chambres pour que vous puissiez intervenir sur les points d'eau? Il y a écoulement, alimentation.
Non, ces points d'eau, ils sont laissés en l'état. Donc non,
ceux-là ne sont pas touchés.
Ils sont pas touchés, donc on n'intervient pas dans cette pièce.
Ok, première question. La deuxième, les armoires de cuisine qui sont actuellement montées en briques, est-ce qu'elles sont démolies ou bien est-ce qu'elles restent en fonction?
Excusez-moi, les gaines techniques.
Les armoires de cuisine. Est-ce que les armoires sont démolies et quelque chose est refait ou elles restent? Les placards, appelez ça, ouais, si vous préférez le terme, les placards, les armoires. Dans les cuisines, en face de l'évier, il y a un placard aujourd'hui.
Ouais, alors, pour moi, je pense que c'est au meuble de cuisine. C'est un placard qui est.
Qui fait toute la hauteur.
Non, celui-là, il ne bougera pas.
Ok, celui-là ne bouge pas. J'ai pas reçu les plans, donc je pose. Donc le placard en bois actuellement, galandagé bois, il reste en place.
Le placard, oui, qui est encastré, ne bouge pas.
Voilà. Ok, donc la question était utile. Attendez, j'ai encore deux toutes petites questions. Dans les effets personnels, il y a des instruments de musique type piano. Est-ce qu'ils sont déménagés par la Livit durant les 3 mois? Ah bah oui, excusez-moi, ma fille fait des études de musique. Est-ce que le piano est déménagé pendant les 3 mois?
C'est un cas particulier qu'on étudie avec les déménageurs, mais
d'accord. On répond favorablement. Réponse à un autre moment, ça me va très bien. Et puis le dernier point concerne les installations électriques. Il y a des lignes qui ont été rajoutées, et tout ça avec l'autorisation de la régie, le contrôle OIBT, etc., que ce soit dans les cuisines ou pour alimenter des machines à laver, le linge. Est-ce qu'elles seront démontées ou elles sont maintenues?
Alors, le souci qu'on a, c'est que là, vous mentionnez des demandes qui ont été faites, entre guillemets, dans les règles de l'art.
en passant par la régie, avec un contrôle limité. Moi, j'ai vu beaucoup de choses dans les logements que j'ai pu visiter. J'en ai visité quelques-uns qui ont été faits vraiment de façon sauvage. Donc, si vous avez des choses qui ont été faites dans les règles de l'art, ce que je vous conseille, c'est de nous les mentionner à nous, Steiner, et aux propriétaires, et qu'on puisse laisser l'équipement tel qu'il est actuellement.
Avec madame.
Comme je vous le dis, de ce qu'on a vu, la plupart des modifications qu'on a vues, elles ne sont absolument pas réglementaires.
On est d'accord.
Et donc, celles-ci, elles ne seront pas laissées.
Ça me convient très bien. On voit ça avec madame Bourreau dans le mois qui précède.
Oh, le plus tôt possible, vous n'êtes pas attendu.
Le plus tôt possible, ok. Merci.
Peut-être aux dernières questions, là, peut-être vraiment trois, cette fois. Il y en a une, deux, trois, voilà. Oui, monsieur.
Oui, j'aurais juste une question sur les déménagements. Est-ce que les raccordements automatiques sont aussi déménagés ou pas ? Au niveau des abonnements, etc. Vu qu'on ne sait pas où on va se rendre, tout est dépendant maintenant dans la fibre optique. Est-ce qu'elle sera dans l'appartement dans lequel on va être déménagé ?
Oui, donc Steiner va s'occuper du transfert effectivement d'abonnement. Vous aurez votre ligne dans le logement provisoire.
D'accord. Et vous avez mentionné qu'il y aurait beaucoup de poussière. Ça, on le conçoit bien que des travaux. Est-ce que les peintures dans les appartements seront refaites par la suite ou pas ? Vu qu'on sait que fermer à clé, ça n'empêche pas la poussière de passer.
Tout ce que... Là, les travaux, en fait, c'est vraiment c'est salle de bain, cuisine et les entrées. Donc, ça se limite à ça. Après travaux, vous avez toujours la possibilité, après, de demander des interventions via Lilith. Donc, si vous constatez que...
On doit comprendre que vous ne mandaterez pas une entreprise de nettoyage après coup.
Juste une toute petite précision. Les portes sont fermées à clé, oui, mais nous, on va en plus de ça les rendre hermétiques. En plus de votre porte en bois standard, on a ce qu'on appelle des portes Renault qui sont des portes en plastique zippées, bien fixées sur la partie fixe de la porte, qui va empêcher la poussière de passer de la zone de travaux à la zone qui n'est pas en travaux, donc typiquement les chambres ou le salon. Par contre, pour l'entreprise de nettoyage, oui, il y aura bien sûr une entreprise de nettoyage qui sera mandatée à la fois pour nettoyer les pièces qui ont été en travaux, donc la cuisine et puis les salles d'eau, et également le hall qui constitue une zone de passage des ouvriers.
Et puis juste au niveau du Z, vous n'avez pas prévu du tout de faire d'ouverture dans les cuisines ou...
C'est uniquement dans le bâtiment, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est uniquement dans le bâtiment I et en plus à choix du locataire. Non, alors pour les salons où il n'y a pas du tout de porte, alors là on le fait en deux temps. On va fixer mécaniquement des lambourdes en pied et en tête et puis créer une cloison provisoire pendant la phase de chantier qui sera également. Donc la cloison provisoire ne sera pas hermétique en elle-même, donc derrière on vient de nouveau plastifier pour que la poussière ne passe pas. Et on a cette typologie qui se répète pas mal de fois en l'occurrence.
C'est à moi. J'aurais deux questions. Une pour les personnes du 6e, juste pour qu'on reprécise l'ensemble. Je suis Bloom 122, voilà c'est ça. Donc, les personnes qui sont au 6e devront déménager deux fois, c'est ça ? C'est-à-dire une fois pour aller dans un endroit, et s'ils sont dans un autre corps du bâtiment, par exemple le 118, ils seront à nouveau obligés de redéménager, c'est ça ?
Alors oui, deux par les contraintes, les accords plutôt de la convention locataire, oui, effectivement. Et comme je le mentionnais aussi, dans la mesure du possible, Madame Bourreau s'efforce de proposer aux habitants du 6e étage de partir une fois sur une durée plus longue.
Donc si ça veut dire de l'ensemble de chemin de montagne, c'est ça ? C'est de partir de chemin de la montagne, c'est ça ?
Non, en restant au chemin, plutôt que d'avoir un logement provisoire de 9 à 12 mois au sein du chemin de la montagne, puis de rentrer dans votre logement qui ne sera pas encore rénové, puis de repartir 3 mois, de partir pour une période plus longue, qui peut être par exemple de 18 mois, exemple 18 mois, mais au sein du chemin de la montagne, dans un logement vacant.
Je prends là le cas particulier, elle se retrouve au 118. Donc le jour où ils vont rénover le 118, il faudra bien qu'elle reparte à nouveau. Ou pas, ou j'ai mal compris.
Sauf si on a pu, pour ce cas particulier, proposer un déménagement provisoire qui réunisse à la fois la période de surélévation et de rénovation. Donc au lieu de partir une première fois 12 mois, puis une deuxième fois 3 mois, partir dans un logement vacant pour une période par exemple de 18 mois, qui nous permet à la fois de gérer la surélévation et la rénovation de la colonne.
D'accord. Peut-être. D'accord. Très bien, très bien.
C'est ce que je disais tout à l'heure.
Sûrement, mais bon, là, on reparlera. On en reparlera avec Madame Bourg.
En fait, il y a certains cas et déménager les gens pendant 12 mois pour la surélévation et on arrive à faire les travaux de rénovation juste en même temps ou alors, enfin juste après. Donc les gens pourraient déménager pendant 15 mois au plus court ou des fois pendant 2 ans, voire 2 ans et demi. Les cas sont proposés à chaque fois qu'on rencontre les personnes au 6e étage. On essaye de leur proposer pour moins de fatigue et question de logistique et puis habiterait dans leur... dans un appartement avec tous leurs biens pendant la totalité du déménagement, souvent les gens préfèrent associer les travaux de surélévation jusqu'à la période de rénovation dans l'appartement et ils déménagent qu'une fois, c'est-à-dire 18 mois ou 24 mois. Après, chaque fois, on rencontre les gens, on leur propose les deux solutions. Et c'est le locataire qui choisit au final.
Voilà, bon, très bien. Et puis, j'ai une deuxième question. J'ai vu les lois concernant les plus-values. Est-ce qu'il y a une loi concernant les indemnités qui fixe les 2 mois d'indemnité ou 3 mois d'indemnité ou 4 mois d'indemnité? C'est légal, c'est... Et puis après, en fonction justement du 6e étage ou d'autres étages, c'est une indemnité égale?
Oui, il y a des lois effectivement qui fixent les indemnités. Alors c'est après vraiment au cas par cas et en fonction des nuisances et en fonction de ce qu'on ne peut pas utiliser. Donc ce qui a été choisi, c'est une moyenne. Et j'aurais parlé un peu des indemnités. Hein. Donc il y avait 2 mois d'indemnité qui étaient prévus, sauf erreur. Mais il y a effectivement des lois concernant les indemnités des locataires.
Mais les loyers seront augmentés à la suite, à la fin des travaux, il y aura donc des augmentations de loyers, c'est ça?
Oui, tout à fait, concernant...
Donc les indemnités sont un peu passées là-dedans, quoi.
Alors, non, on a justement proposé des indemnités. C'était 2 mois de loyer d'indemnité pour les locataires. Et ben, bien sûr, quand il y a des montants de plus-value qui sont effectués dans les travaux, effectivement, il y a aussi des lois qui nous limitent l'augmentation, bien sûr, mais effectivement, on ne peut pas faire des travaux comme ça sans augmentation.
Après, peut-être une petite précision aussi, ces 2 mois, en fait, ça a été négocié à l'époque avec le groupe Montagne, ça fait partie de la convention qu'on a signée avec le groupe Montagne.
Donc l'augmentation, on en a parlé, c'était à la fin de l'étape, hein, à la fin de la tranche des travaux, donc quand les travaux sont terminés pour votre étape. Et donc on va faire une formulaire officielle d'augmentation. Voilà, ce sera une fois que les travaux sont terminés. La deuxième question, vous avez une deuxième question? Ça sera sauf erreur en même temps également.
On a vraiment la dernière question, monsieur.
Merci, Noverao 118, chemin de la montagne. Quand on déménage dans un autre appartement, on continue à payer le loyer actuel, de son appartement actuel, celui dans lequel nous allons déménager. Merci.
C'est votre loyer actuel qui va continuer parce qu'on va vous mettre à disposition un appartement équivalent. Et donc ça, il faut le comprendre comme une prestation vraiment qui, pour avoir vu quand même quelques travaux, on rénove plus de 800 appartements par an, C'est très confortable. Et moi, je vous encourage vraiment à utiliser cette possibilité qu'on a pas souvent. Parce que, comme a dit M. Muffon, de rester dans un appartement pendant les travaux, c'est quelque chose qui est très lourd. Et malheureusement, souvent, on n'a pas d'autre solution. Et on voit les occupants de l'immeuble qui sont effectivement obligés d'utiliser des toilettes sèches ou d'aller au sous-sol pour prendre des douches. C'est des conditions qui sont difficiles. Donc ici, on a cette possibilité, parce qu'on a quand même du balcon qui est relativement conséquent, donc on a pu se permettre d'avoir cette solution. Donc je vous encourage vraiment d'utiliser ça. Donc par contre, au niveau du loyer, donc vous continuez à payer votre loyer comme d'habitude, et ça n'a pas d'incidence, parce que vous avez un appartement qui est équivalent. Et justement, cette indemnité qu'on va vous payer à la fin des travaux correspond justement à cette nuisance que vous avez. Donc si vous étiez obligé de rester dans votre appartement pendant 3 mois, on considère qu'une indemnité vous est due, parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas jouir de votre bien comme vous pouvez faire d'habitude. Donc cette indemnité, ça correspond à ça.
Ok, merci.
Vraiment la dernière, parce qu'après vous pouvez continuer à poser des questions. Oui, mais vous pouvez continuer à poser
des questions. Pour l'augmentation, elle est progressive ou tout d'un coup va se prendre 40 ou 50%?
Non, elle est directe en fait. C'est effectivement pas progressif. Hein. Vous avez, à la fin des travaux, vous allez recevoir l'indemnité qui correspond justement à cette jouissance qui n'est pas habituelle. Et vous avez l'augmentation qui correspond à la plus-value que vous avez dans votre appartement. Donc ça, c'est des points effectivement qui sont très strictement réglés. On ne peut pas faire comme on veut. Bon, je vous propose, si vous avez des questions encore, posez-les, on est encore là. Et on verra bien.